De retour à On a des choses à dire, une présentation de Luciédel Parizeau Cabinet d'assurance, Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires.
Puisqu'on parle de pont, moi j'ai le goût qu'on revienne sur un autre dossier de pont. On vous a vu à quelques reprises dans les différentes présentations qui ont été faites par le promoteur du pont, M. Poirier. On vous a vu, mais on vous a peu entendu. Et malgré ça, l'organisation a cru bon de se dire que bon, vous êtes, que vous étiez la solution, que la CAQ et vous seriez les porteurs du dossier. Maintenant, vous êtes au pouvoir, vous êtes là, et faut croire que l'organisation avait tellement confiance en ce que vous pouviez en faire qu'ils se sont retirés et vous laissent toute la place. Qu'est-ce que vous pensez de tout ça? D'abord, comment ça se fait qu'en étant aussi discret que vous l'avez été quand même pendant ces événements-là? J'étais présent là, à au moins deux de ces événements-là. Vous étiez là, mais vous n'êtes pas intervenu comme tel. Qu'on a pu croire que vous aviez des engagements précis là, sur ce dossier-là.
Au niveau de mon engagement, puis j'invite les gens à aller voir ce qui était promis durant la campagne électorale. Moi, je me suis toujours engagé.
Je parle avant ça.
Je me suis toujours engagé à aller de l'avant avec une étude sur la mobilité. Puis c'est ce qu'on est en train de faire avec le comité qui est mis de l'avant avec la MRC, sur lequel je vais participer. Puis j'en ai déjà parlé avec le ministre Bonnardel également. Donc, à ce moment-là, on avance. Au niveau du pont, je vais être franc avec vous, le comité qui s'est comme sabordé, ben, il y a des questions de tragiques aussi là-dedans, ouais. on va se le dire. Puis moi, je pense, pas que c'est maladroit, mais écoutez, leur communiqué était prêt, il manquait le nom du gagnant à l'élection, puis ils ont décidé de mettre le singe sur l'épaule du gagnant, comme on dit. Maintenant, est-ce que je suis en faveur d'un pont? La réponse, c'est oui. Je pense que collectivement, on en veut tous un. Moi, j'ai rencontré le promoteur, M. Poirier, un peu avant la campagne électorale, avec les porte-parole en transport de la CAQ de l'époque. Et puis, je salue l'engagement de M. Poirier de vouloir s'investir dans notre collectivité et tout ça. Tout ça, c'est correct.
Lui aussi, il a cru là, que vous étiez pour être le porte-flambeau.
Oui, mais par contre, vous savez, un élu, ça fait pas du lobbyisme. Ouais. Moi, dans l'étude qui va être mise de l'avant, on va regarder l'ensemble des problématiques en mobilité de la région. Le projet l'axe Nord-Sud en fera partie. Maintenant, c'est pas moi qui va faire la promotion du projet de M. Poirier. Lui, il peut le faire. S'il veut me rencontrer à nouveau, je vais le recevoir avec plaisir. S'il veut parler au ministre, je vais l'introduire également avec plaisir. Il y avait, puis je le dis en toute franchise, là, dans le projet présenté, il y avait deux lacunes. On n'est peut-être pas obligé d'en parler aujourd'hui, mais il y avait deux choses qui étaient un petit peu titillantes là-dedans. Entre autres, au fait de le projet de M. Poirier proposait une seule voie de circulation par côté. T'sais, on fera pas une...
Ça, il était revenu un peu plus tard en disant,
ouais,
en s'amendant là-dessus.
Mais le coup, au niveau du budget, c'est pas la même chose. Non. Mais moi, ce qui est le plus préoccupant pour moi, c'est que dans son cadre financier, M. Poirier évoquait que les traversiers coûtent quelque chose comme 12 millions par année à l'État québécois. Il y a divers chiffres qui ont circulé. Donc, si je fais un pont, vous pouvez me donner annuellement 12 millions pendant 20 ans. Ça, on peut se parler. Mais j'aimerais avoir le projet sans aucun appel d'offres. Ben moi, ça n'arrivera pas. Je veux dire, je m'en vais pas en politique pour donner l'argent des contribuables sans appel d'offres. Ceci dit, le projet du pont sera étudié davantage lors de l'étude de la mobilité que le comité. L'ensemble des maires, faut pas oublier nos amis de la Rive-Nord aussi. Hein? Mm-hmm. Un pont, ça n'arrête pas dans le milieu du fleuve. Mais pas seulement que ça, également au niveau de le prolongement de l'autoroute 30. Moi, il y a d'autres dossiers aussi. J'ai une rencontre la semaine prochaine avec le maire Péloquin puis le maire Vincent de la ville de Saint-Joseph pour la route industrielle. Puis j'ai évoqué la possibilité d'amener ce dossier-là dans l'étude de mobilité parce que c'est vrai qu'il va y avoir davantage de circulation lourde sur notre territoire dans les prochaines années.
Vous avez un devoir de médiation dans ce dossier-là parce que les deux pôles, là, s'entendent, se sont jamais entendus depuis bien des années, là, Saint-Joseph et Sorel.
Écoutez, on s'est parlé, puis on se rencontre spécifiquement seulement tous les trois la semaine prochaine là-dessus. Moi, je prétends pas, c'est un projet qui traîne depuis 20 ans. Là. J'arrive pas là comme un sauveur, puis je vais vous régler ça avec un coup de baguette. Là. Par contre, un regard neuf, pourquoi ne pas repartir à zéro, puis profiter de l'étude sur la mobilité pour essayer de s'aligner sur une voie qui va être acceptable?
Je vous entends parler sur un autre dossier. Lors de la campagne électorale, vous vous étiez engagé, et pas juste vous, là, c'est un dossier qui avait fait l'unanimité, à ramener une direction générale du côté de l'Hôtel-Dieu, Pierre de Sorel. On a appris dernièrement qu'il y aura une direction adjointe, donc une façon de pallier. Quand on a eu le directeur des communications en entrevue, on lui a demandé si c'était un geste politique, si le politique avait joué là-dedans. Vous avez pratiquement été balayé du revers de la main. Ce serait une décision du CI3S tout court, sans aucune pression politique. C'est une bonne nouvelle que vous n'avez pas le choix d'applaudir, mais on vous a enlevé un peu le tapis sous les pieds.
Ben, moi, vous savez, ce qui compte, là, c'est, je ne suis pas un politicien de carrière, là, je viens du milieu des affaires, moi, ce qui compte, c'est les résultats. Mon prédécesseur, puis je le salue, et les gens avaient évoqué cette possibilité-là avant mon arrivée en poste. Moi, dès les premiers jours de mon élection, j'ai rencontré Mme Potvin du 6, et puis j'ai parlé de nos préoccupations localement à ramener davantage de pouvoir décisionnel. Alors, est-ce que ça a une influence ou pas? Moi, je pense que c'est un ensemble de facteurs. C'est un geste que je salue, l'arrivée d'une direction adjointe. Maintenant, on va l'évaluer au résultat. Moi, ça rajoute un poste dans un organigramme déjà chargé. Ce qui est important pour moi, c'est que ça paraisse. Ça paraisse. J'ai parlé également avec des regroupements de médecins. Et puis moi, je suis en train de travailler aussi pour amener un peu de pouvoir additionnel au sein du conseil d'administration. Là, vous savez qu'il y a, je veux pas dire n'importe quel chiffre, mais à peu près 17 personnes au sein du CA. On a 2 représentants de la région. Ce ne sont pas un critère, l'endroit de résidence, c'est plus les compétences. Moi, j'ai la volonté de ramener au moins un tiers de représentants locaux à l'intérieur du conseil d'administration. Là, la ministre Mécan m'a déjà entendu à ce sujet-là également.
Si on a bien compris, de toute façon, celui qui nous a parlé là-dessus, celui à qui on a posé les questions, il est clair que nous, on met les premières pierres et que ça semble vouloir débouler vers d'autres régions aussi. On n'est pas les seuls à vouloir à réclamer de rapatrier des pouvoirs.
La centralisation dans le domaine de la santé qui a été effectuée par le gouvernement précédent a eu des répercussions partout à la grandeur du Québec. Mais là, moi, je réitère la volonté de notre gouvernement. La ministre Mécan l'a dit, on ne va pas rejouer dans les structures, mais on veut surtout ramener de l'humanité dans le réseau. Parce qu'au-delà des structures, c'est des gens, c'est des hommes et des femmes qui travaillent. Puis ces gens-là sont essoufflés. Ils ont été malmenés dans les dernières années. Puis là, je pense qu'il faut les entendre, les écouter, puis leur donner des outils pour être en mesure de donner des soins de qualité
parlant, à nos citoyens. Parlant d'humanité... Très bon coup du côté de la CAQ avec les cliniques d'hiver. Sorel-Tracy en a accueilli une, clinique d'hiver. Vous avez vu ça. Pourquoi Sorel-Tracy? Avez-vous travaillé là-dedans? Et puis, c'est un dossier que vous regardez parce qu'on devient quand même une région pilote là, sur ces fameuses cliniques d'hiver-là.
Oui, exact. Ben, c'est un dossier, moi, que je salue. Puis j'ai beaucoup apprécié la volonté de la ministre Mécan d'agir rapidement avec des genres de projets pilotes, comme vous le dites. Puis les résultats, mon équipe, j'ai demandé les statistiques. Je les ai pas en date d'aujourd'hui, les statistiques qui se terminaient jusqu'à mi-février à peu près. Puis c'était très intéressant là, ce qui s'est passé. Alors, il faut essayer de nouvelles initiatives. Il faut réagir. De ma compréhension aussi, il y avait l'influenza qui est rentrée pas mal fort, pas juste dans la région, mais partout. Puis ça, c'est très aléatoire. On ne sait jamais si les vaccins vont être efficaces ou pas. Alors même dans le système de la santé, qui est un système qui est lourd, hein, c'est une grosse machine à bouger. Mais la ministre a été capable de bouger rapidement. Puis je suis très content que notre région ait pu bénéficier de cette clinique d'hiver.
Parlant de des cobayes ou de lancer quelque chose de nouveau... Vous avez, justement, dans le domaine de l'éducation, on va y revenir, votre gouvernement a mis de l'avant là, le dossier des maternelles 4 ans. Ça fait pas l'unanimité, il y a plein de critiques là-dessus. Mais chez nous, est-ce que c'est une mesure qui va s'appliquer dans un avenir approché? Est-ce que vous avez des plans? Comment ça fonctionne chez nous pour ce...
Ouais, je pense qu'il est important dans ce dossier-là, il faut rappeler que les maternelles 4 ans seront déployées partout à la grandeur du Québec, mais c'est une mesure qui n'est pas obligatoire. C'est une mesure qui n'est pas obligatoire. Ça s'ajoute dans l'offre de services qui est offerte aux parents. Les CPE, les maternelles 4 ans, garderies privées, c'est une offre supplémentaire. Puis nous, on veut laisser le choix aux parents de décider. Je pense que on est tous les trois des parents. On veut ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Alors avoir dans le panier d'offres une offre supplémentaire qui est décriée par certains, mais qui est applaudie par d'autres. Ouais. Je pense entre autres au professeur Égide Royer, le spécialiste de la faculté de l'Université Laval, qui encense le projet des maternelles 4 ans. Puis vous savez, les détracteurs, il faut aller de l'avant à un moment donné. années. Au Québec, dans les années 60, quand on a décidé de se doter des cégeps, il y en avait en masse des détracteurs. Puis aujourd'hui, c'est un outil éducationnel qu'on ne se priverait pas. Alors moi, je pense qu'il faut pousser puis il faut aller de l'avant. Maintenant, pour ce qui est de la région, on a déjà des maternelles 4 ans ici, l'école Martel en a une, Maria Gorotti, plus loin dans le comté, dans le coin de Saint-Jude également. Ah. Et puis, oui, on sera appelé à recevoir de ces maternelles 4 ans-là. C'est un programme qui est là sur plusieurs années. On va l'échelonner sur 4-5 ans. Puis, si tantôt, je vous parlais de l'école primaire de Yamaska. Moi, j'ai communiqué avec la commission scolaire puis Mme de Tonnancourt, la mairesse. Toutes les nouvelles demandes dont devra figurer à l'intérieur de celle-ci une maternelle 4 ans. Fait qu'on est en train de réajuster tout ça. Ça a fait ses preuves en Ontario, en France, entre autres. Puis le but dans tout ça, on va pas se le cacher, là, c'est donner le maximum de possibilités à nos enfants, surtout les enfants qui pourraient avoir des difficultés d'apprentissage, d'être dépistés de façon précoce. Ouais. Pour qu'ils soient pris en charge rapidement.
Moi, dans mon entourage, je connais des enfants qui connaissent des difficultés, puis effectivement, les propos de votre ministre quand il a dit qu'il était pour donner les ressources qu'il fallait pour régler ces problématiques-là, c'est rafraîchissant, c'est encourageant, mais encore faut-il qu'on vive encore une fois les résultats, mais il y a entre autres l'école alternative dont on a parlé aussi qui fait partie des solutions. En tout cas, moi je suis très encouragé de voir que vous avez une ouverture, en tout cas, sur ces nouvelles façons de faire-là, plutôt que de chercher. On a connu tellement de réformes et de réformes qui semblaient basées sur des critères purement administratifs, souvent qui n'avaient pas de base sur lesquelles on pouvait se pencher pour dire ben regarde, ils ont fait ça de telle façon dans tel pays, ça a bien fonctionné. Non, on essayait des nouvelles affaires, puis une fois sur deux ou une fois sur trois dans le passé, on s'est aperçu qu'on faisait des pas en avant, en arrière, on dansait avec ça.
Puis vous avez parlé du ministre Roberge. Là, je vais vous vanter un peu mon ministre. Moi, je me souviens pas au Québec qu'on ait eu un ministre de l'Éducation aussi prêt à assumer ses fonctions. Ça fait très longtemps. Le gars, je l'appelle JF parce que je le connais très bien, là. Jean-François sait de quoi il parle. Il a une vision très claire et c'est très, très positif. Puis je suis content de vous l'entendre l'évoquer. Puis c'est une structure qui existe déjà. Il y en avait déjà quelques centaines.
Il met la pression en disant ça, là.
Ah, ben, tout à fait. Va falloir que les résultats soient là. Puis les gens nous jugeront dans 4 ans sur les résultats. Puis on ne brime pas d'autres réseaux. D'ailleurs, le ministre de la Famille a annoncé des investissements de plusieurs millions dans le réseau des CPE. Donc, on est capable de marcher, manger de la gomme en même temps, là, pour reprendre l'expression.
Ben, en autant qu'on... Comment est-ce qu'on dit ça, là? De marcher... Non, de mettre les bottines du même bord, les babines, quelque chose comme ça, là.
Oh,
les,
là, on est dans...
Les babines suivent les bottines, en tout cas. Ou les bottines suivent les babines.
On peut pas passer à côté, M. Limon, en terminant. Faut parler de la candidature de votre frère au fédéral. Comment Jean-Bernard Raymond a reçu la nouvelle? C'est sûr que ça s'est parlé dans les parties de famille, là.
Ouais,
je veux dire, votre frère a été tellement présent à vos côtés lors de la dernière campagne électorale, il était votre bras droit, littéralement. On se présente au Parti conservateur. D'ailleurs, on a été surpris de ne pas vous voir à son investiture. Ça aurait été politiquement correct, ça.
En fait, moi, je vais commencer en vous disant que j'ai toujours été un peu irrité, disons, de voir des élus d'un quelconque palier s'impliquer dans un autre palier. Moi, je l'ai vécu 3 fois plutôt qu'une, là, des élus qui prennent un candidat puis parlent la main puis qui le promènent partout dans un comté. Moi, je prends mon rôle d'élu très au sérieux. Et puis, je vais appliquer ce qu'il appelle le devoir de réserve. Alors, moi, je vais pas m'impliquer dans la campagne fédérale. Je pense que les gens, on n'a pas besoin de leur dire pour qui voter. Là, ils sont capables de faire leur choix tout seuls. Donc, je vais exercer ce devoir de réserve-là en ne supportant aucun candidat. Je souhaite bonne chance à tous les candidats. Maintenant, une fois que j'ai dit ça, mon frère Pierre-André, si vous me demandez, je suis surpris de le voir aller en politique, la réponse, c'est non. T'sais, moi, PPA, on a eu la même éducation, on a les mêmes valeurs familiales de partage, d'entraide, d'implication dans la collectivité. Moi, j'ai mon frère PA, puis j'ai 4 grandes sœurs, puis mes 4 sœurs et Pierre-André, ce sont des modèles pour moi. Mon frère, c'est comme un mentor, sincèrement. Alors, ben, je lui souhaite la meilleure des chances, puis c'est les citoyens qui vont décider. Moi, je vais collaborer avec la personne qui sera élue à la prochaine élection fédérale.
Ça créerait une situation particulière quand même. Hein? Deux frères, chacun leur palier gouvernemental.
Ben, ils ont leur palier. On a vu les sœurs David dans 2 parties différentes.
Ah ben oui, bon, oui, exact. Il y a des précédents un peu partout. Puis, Ben, il y a une affaire qui est sûre, c'est que je pense que on n'aura pas de trouble à se trouver nos téléphones, nos numéros de téléphone respectifs.
il manquerait une de vos sœurs à mairie.
On va y penser.
Le portrait serait complet. Jean-Bernard Raymond, c'est un grand plaisir de vous accueillir. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions avec autant de franchise, autant de... Non, franchement.
J'ai pas entendu la cassette aujourd'hui, moi.
Non.
C'est un plaisir. Non. Toujours plaisir de venir
on
vous
l'avait préparé. Gens. On n'avait pas fait un effet sonore pour ça. Là, on l'a pas fait. Alors, à bientôt, j'espère, pour avoir des développements dans tous ces dossiers, cependant. Alors, on vous remercie de votre passage. Jean-Bernard Raymond, député de Richelieu à l'Assemblée nationale. On va faire une courte pause. De l'autre côté, des gens qui bougent. Ils ne s'appellent pas un mouvement pour rien,
ouais.
Parce qu'ils ont la bougeotte et ils sont d'ailleurs armés de gens qui savent faire bouger les choses. Donc, on parle du mouvement écologique du comté de Richelieu avec Frédéric Courchesne, son vice-président, tout de suite après ceci.